Sophie saisit les mains du docteur. De grosses larmes parurent dans ses yeux. Elle ne put que balbutier « Oh, monsieur Pascal !» Comme on l'aimait. Et Clotilde sentait sa tendresse pour lui s'augmenter de toutes ses affections éparses. Ils restèrent là un instant, à causer, dans l'ombre saine des chênes verts. Puis, ils revinrent vers Plassans, ayant encore à faire une visite. C'était, à l'angle de deux routes, dans un cabaret borgne, blanc des poussières envolées. On venait d'installer, en face, un moulin à vapeur, en utilisant les anciens bâtiments du Paradou, une propriété datant du dernier siècle. Et Lafoisse, le cabaretier, faisait tout de même de petites affaires, grâce aux ouvriers du moulin et aux paysans qui apportaient leur blé. Il avait encore pour clients, le dimanche, les quelques habitants des Artaux, un hameau voisin. Mais la malchance le frappait. Il se traînait depuis 3 ans en se plaignant de douleurs, dans lesquelles le docteur avait fini par reconnaître un commencement d'ataxie. Et il s'entêtait pourtant à ne pas prendre de servante. Il se tenait aux meubles, servait quand même ses pratiques. Aussi, remis debout après une dizaine de piqûres, criait-il déjà sa guérison partout. Il était justement sur sa porte. Grand et fort, le visage enflammé, sous le flamboiement de ses cheveux rouges. « Je vous attendais, monsieur Pascal. Vous savez que j'ai pu hier mettre 2 pièces de vin en bouteille, et sans fatigue !» Clotilde resta dehors, sur un banc de pierre, tandis que Pascal entrait dans la salle afin de piquer la fouasse. On entendait leur voix. Et ce dernier, très douillé malgré ses gros muscles, se plaignait que la piqûre fût douloureuse. Mais, enfin, on pouvait bien souffrir un peu pour acheter de la bonne santé. Ensuite, il se fâcha, força le docteur à accepter un verre de quelque chose. La demoiselle ne lui ferait pas l'affront de refuser du sirop. Il porta une table dehors. Il fallut absolument trinquer avec lui. « À votre santé, monsieur Pascal, et à la santé de tous les pauvres bougres à qui vous rendez le goût du pain. » Souriante, Clotilde songeait au commérage dont lui avait parlé Martine, à ce père Boutin qu'on accusait le docteur d'avoir tué. Il ne tuait donc pas tous ses malades. Sa médication faisait donc de vrais miracles. Et elle retrouvait sa foi en son maître, dans cette chaleur d'amour qui lui remontait au cœur. Quand ils partirent, elle était revenue à lui tout entière. Il pouvait la prendre, l'emporter, disposer d'elle à son gré. Mais quelques minutes auparavant, sur le banc de pierre, elle avait rêvé à une confuse histoire en regardant le moulin à vapeur. N'était-ce point là, dans ces bâtiments noirs de charbon et blancs de farine aujourd'hui, que s'était passé autrefois un drame de passion? Et l'histoire lui revenait, des détails donnés par Martine, des allusions faites par le docteur lui-même, toute une aventure amoureuse et tragique de son cousin, l'abbé Serge Mouret, alors curé des Artaux, avec une adorable fille, sauvage et passionnée, qui habitait le Paradou. Ils suivaient de nouveau la route, et Clotilde s'arrêta, montrant de la main la vaste étendue morne, des chaumes, des cultures plates, des terrains encore en friche. « Maître, est-ce qu'il n'y avait pas là un grand jardin? Ne m'as-tu pas conté cette histoire ?» Pascal, dans la joie de cette bonne journée, eut un tressaillement, un sourire d'une tendresse infiniment triste. Oui, oui, le Paradou, un jardin immense, des bois, des prairies, des vergers, des parterres, et des fontaines, et des ruisseaux qui se jetaient dans la Viorne. Un jardin abandonné depuis un siècle, le jardin de la Belle au bois dormant, où la nature était redevenue souveraine. Et tu le vois, ils l'ont déboisé, défriché, nivelée pour le diviser en lots et le vendre aux enchères. Les sources elles-mêmes se sont taries. Il n'y a plus là-bas que ce marais empoisonné. Ah, quand je passe par ici, c'est un grand crève-cœur. Elle osa demander encore. N'est-ce point dans le Paradou que mon cousin Serge et ta grande amie Albine se sont aimés? Mais il ne la savait plus là. Il continua, les yeux au loin, perdu dans le passé. Albine, mon Dieu, je la revois, dans le coup de soleil du jardin, comme un grand bouquet d'une odeur vivante. La tête renversée, la gorge toute gonflée de gaieté, heureuse de ses fleurs, des fleurs sauvages tressées parmi ses cheveux blonds, noués à son cou, à son corsage, à ses bras minces, nus et dorés. Et quand elle se fut asphyxiée au milieu de ses fleurs, je la revois morte, très blanche, les mains jointes, dormant avec un sourire sur sa couche de jacinthe et de tubéreuse. Une morte d'amour, et comme Albine et Serge s'étaient aimés dans le grand jardin tentateur, au sein de la nature complice, et quel flot de vie emportant tous les faux liens, et quel triomphe de la vie. Clotilde, troublée à cet ardent murmure de paroles, le regardait fixement. Jamais elle ne s'était permis de lui parler d'une autre histoire qui courait, l'unique et discret amour qu'il aurait eu pour une dame, morte elle aussi à cette heure. On racontait qu'il l'avait soignée, sans même oser lui baiser le bout des doigts. Jusqu'ici, jusqu'à près de 60 ans, l'étude et la timidité l'avaient détourné des femmes. Mais on le sentait réservé à la passion, le cœur tout neuf et débordant sous sa chevelure blanche. Et celle qui est morte, celle qu'on pleure? Elle se reprit, la voix tremblante, les joues empourprées, sans savoir pourquoi. Serge ne l'aimait donc pas qu'il l'a laissé mourir? Pascal sembla se réveiller, frémissant de la retrouver près de lui, si jeune, avec de si beaux yeux, brûlants et clairs, dans l'ombre du grand chapeau. Quelque chose avait passé, un même souffle venait de les traverser tous deux. Ils ne se reprirent pas le bras, ils marchèrent côte à côte. Ah, chérie, ce serait trop beau si les hommes ne gâtaient pas tout. Albine est morte, et Serge est maintenant